19h01 au carillon d'Europe 1. Voici les grands titres de l'info.
On est très enthousiaste parce qu'on recommence à travailler après des mois à ne rien faire.
Entrée, c'est ouvert. La Grèce lève toutes les restrictions de circulation sur terre comme sur mer. Le pays veut faire le plein de touristes, une manne essentielle pour son économie.
Il faut tenir car les doses arrivent, ce que dit le Premier ministre. Les autotests aussi, même en plein week-end de l'Ascension. Nous serons en gare de Rennes où les voyageurs peuvent se tester, même à la descente du train.
Le policier blessé à la tête lors d'une intervention à Rive de J a été hospitalisé, mais son pronostic vital reste engagé selon les médecins.
Toujours aucun espoir de voir la tension retomber au Proche-Orient. C'est même le contraire. Israéliens et Palestiniens continue de s'affronter dans et autour de la bande de Gaza.
Les élections régionales en PACA, Renaud Muselier a désormais le champ libre après le retrait de La République En Marche. Le président sortant, Les Républicains, présentait sa liste cet après-midi, garantie sans ministre ni élu de la majorité présidentielle. Et puis Amazon, pris d'une frénésie d'embauche, 75 000 postes aux États-Unis. Mais trouver des employés, eh bien ce n'est pas si simple, Wendy. Pour séduire les candidats, le géant de l'e-commerce doit augmenter les salaires.
Et oui, on y vient. La météo, Anissa, c'est un week-end qui s'annonce automnal de nouveau.
Oui, il va falloir prévoir des bons bouquins, des séries ou des jeux de société parce que le ciel sera gris sur de nombreuses régions. Demain et dimanche, nous aurons des averses au nord, de la pluie plus soutenue dans le sud. Même les températures ne sont pas de saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Merci.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La Grèce veut tourner la page du Covid. Le pays était déjà sorti du confinement, mais le droit de circuler était très restreint. C'est fini. Après 7 mois sous cloche, les autorités grecques lèvent toutes les restrictions sur terre comme sur mer. Diane Berger, l'enjeu, c'est bien sûr de faire revenir les touristes.
Oui, car un travailleur grec sur 4 dépend du secteur touristique. Et c'est particulièrement crucial pour l'économie des îles, la Crète, les Cyclades, les îles Ioniennes. Alors, dans les hôtels, les voyageurs reviennent tout doucement. À Santorin, par exemple, l'établissement géré par Palamassis, vu sur la mer parfaitement bleue, affiche à moitié complet.
On est très enthousiaste parce qu'on recommence à travailler après des mois à ne rien faire. Mais bon, on ne parle pas de faire des bénéfices en 2021, ni même en 2022 probablement.
En effet, pour faire revenir les clients, il a cassé les prix des chambres sur l'île de Paros. Fragiskos, lui, a préféré ne pas ouvrir tout de suite son hôtel.
Il n'y a pas encore beaucoup de touristes. Ça va vraiment démarrer en juin. Donc oui, bien sûr qu'on est soulagé, mais on reste un peu inquiet quand même. Si les cas de Covid augmentent à nouveau, on aura peut-être des annulations.
Malgré les risques d'annulation de dernière minute, l'hôtelier garde espoir. La saison 2021 sera selon lui forcément meilleure que l'été dernier. Il y avait alors 5 fois moins de touristes qu'en temps normal.
Diane Berger, merci. La Grèce qui rouvre ses portes et la France qui n'en est pas encore tout à fait là, mais qui fait tout pour y arriver, Christophe.
Ben oui, l'objectif des 20 millions de primo-vaccinés sera atteint ce soir ou demain. C'est l'un des axes privilégiés pour venir à bout du virus et retrouver la vie d'avant. Il y a aussi le dépistage. On peut désormais se tester soi-même et gratuitement en Bretagne, exemple à la gare de Rennes, où des autotests sont distribués à la descente du train, Charles Guyard.
Oui, 25 000 autotests en tout sont en effet distribués à tous les points d'arrivée en Bretagne, comme cet après-midi à la gare de Rennes.
Bonjour, on distribue des autotests pour le Covid, ça vous intéresse ?
À la descente d'un train en provenance de Paris, Laurine de la protection civile donne donc une boîte à Alix et à Karine.
C'est bien parce qu'en plus je reviens de Paris, donc l'angoisse, il y avait tellement de monde, c'était horrible.
Vous allez le faire ce test ?
Bah du coup oui, maintenant que je l'ai, c'est cool.
J'espère qu'il y a tout ce qu'il faut pour nous indiquer comment procéder parce que pour le coup j'ai jamais essayé.
Pas d'inquiétude, une fiche explicative est fournie avec le kit. En moins d'un quart d'heure, le résultat tombe, un trait c'est négatif, 2 positif.
Le week-end sera peut-être pas tout à fait le même que celui qui était prévu.
Stéphane Muliez, directeur de l'Agence régionale de santé de Bretagne.
Si une personne est positive, on va l'inviter à observer les mesures d'isolement. Et si vraiment il est nécessaire, nous pouvons proposer, en lien avec les préfectures, des dispositifs de chambres d'hôtel pour que les personnes puissent s'isoler.
Au milieu de quelques refus, de nombreux voyageurs repartent tout de même avec une boîte comprenant chacune 5 autotests et tous se disent prêts à ne plus sortir en cas de Covid avéré, quitte même à prolonger le séjour en Bretagne.
Bah, si c'est positif, on va trouver un hôtel.
De toute façon, mon employeur ne me permettrait pas de revenir sur site, donc je resterai isolé.
Ah bah je bouge pas de chez moi, ça c'est clair.
Je m'isole de toute façon, ça c'est sûr, dans un hôtel ou un truc comme ça.
Vaut mieux faire attention à ses proches.
L'opération est menée tout le week-end dans les gares donc, mais aussi aux embarcadères pour les îles bretonnes.
Depuis la gare de Rennes, Charles Guyard, notre correspondant dans le Grand Ouest.
Alors attention, parce que la prudence face aux variants reste d'actualité. La quarantaine obligatoire pour rentrer en France est étendue à 4 autres pays. Les voyageurs en provenance de Colombie, du Costa Rica, de l'Uruguay et du Bahreïn devront justifier d'un test PCR négatif de moins de 36 heures. Ils devront également observer une quarantaine stricte de 10 jours.
Dans l'actualité également, cette enquête ouverte à Rives-de-Gers après l'agression d'un policier qui est toujours ce soir dans le coma.
Son pronostic vital est même engagé. Il a été gravement blessé à la tête au cours d'une intervention pour tapage nocturne. Ce brigadier-chef a été pris à partie par un groupe d'une quinzaine de jeunes. Les explications du commissaire Cédric Esson, directeur de la sécurité publique de la Loire.
Les fonctionnaires de police, qui sont au nombre de 3 dans cette patrouille, reçoivent une pluie de projectiles de toutes sortes sur eux, si bien qu'ils tentent de se réfugier à l'intérieur du véhicule de service. Et les fonctionnaires, 2 fonctionnaires arrivent à l'intérieur du véhicule de service et ne voient pas le troisième équipier qui compose l'équipage. Donc là, ils ressortent du véhicule et ils constatent au pied de la portière du véhicule leur collègue inconscient sur la voie publique qui manifestement a reçu des projectiles. Le projectile était conséquent, il a frappé la tête de notre collègue de manière extrêmement violente. Ça s'est avéré et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, son pronostic vital est toujours engagé. Il n'est toujours pas réveillé, le coma est pour l'instant prolongé et visiblement les atteintes qu'il a eues sont extrêmement graves.
Cédric Esson, le directeur de la sécurité publique de la Loire avec Guillaume Bier.
Dans les Cévennes maintenant, les recherches se poursuivent pour retrouver la trace de Valentin Marcon, cet homme de 29 ans, soupçonné de double meurtre qui échappe aux 350 gendarmes déployés depuis maintenant 4 jours.
Au Proche-Orient, on redoute plus que jamais un embrasement alors que de violentes manifestations secouent la Cisjordanie.
Oui, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira pour la 3e fois en urgence dimanche, alors que l'armée israélienne poursuit les frappes sur la bande de Gaza pour réduire les tirs de roquettes du Hamas. Et dans les villes israéliennes, des affrontements menacent de tourner à la guerre civile entre juifs et arabes.
Et les appels au calme de la communauté internationale restent sans effet pour l'instant. L'État hébreu n'a pas l'intention de faire marche arrière. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou veut même intensifier les bombardements sur Gaza.
J'ai dit que nous infligerions de sérieux revers au Hamas et à d'autres groupes terroristes, et nous le faisons. Au cours des derniers jours, nous avons détruit des cibles souterraines où le Hamas pensait pouvoir se cacher.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est en France. La manifestation pro-palestinienne prévue demain à Paris a été interdite par la préfecture qui craint des débordements. Décision attaquée en justice par les organisateurs qui réclament son maintien. Le tribunal administratif se prononcera demain matin.
Vous écoutez Europe 1, 19h08 et c'est Christophe Lamarre qui vous informe. En politique, la campagne pour les élections régionales ne donne pas l'impression d'avoir tout à fait démarré, mais les listes, elles, sont bien constituées.
Gérald Darmanin rejoint Éric Dupond-Moretti sur la liste La République en marche dans les Hauts-de-France. 2 autres ministres accompagnent celui de l'Intérieur. Il s'agit d'Alain Griset et d'Agnès Pannier-Runacher.
Et en Provence, à Côte d'Azur, pas de liste de la majorité, mais 15 candidats La République En Marche qui vont figurer sur la liste du président sortant LR, Renaud Muselier. On va finir par s'y perdre, mais le président sortant en profite pour lancer non pas un message personnel, mais un message à sa famille politique. Écoutez.
Et j'ai un message très spécifique pour ma famille politique. C'est ma colonne vertébrale. Ceux qui se compromettent aujourd'hui en appelant à ne pas voter pour moi sont des irresponsables et nous soutiennent de fait le seul traître de cette élection, Thierry Mariani. J'en appelle à la responsabilité de chacun et à la fin de l'hystérie. Ils remettent en cause la ligne rouge héritée de la fondation du RPR, de l'UMP et des Républicains. Pas de compromission avec l'extrême droite et avec le Front National.
Message politique lancé à sa famille par le président LR sortant de la région PACA, Renaud Muselier. Aux États-Unis, Amazon se lance dans une gigantesque campagne de recrutement, mais les candidats ne se bousculent pas au portillon, Christophe.
Le géant américain veut créer 75 000 emplois, tous les profils l'intéressent, mais le problème, c'est que les Américains se font un peu tirer l'oreille et pour les convaincre, Clément Le Saffre, eh bien Amazon n'a pas le choix, il devra augmenter les salaires.
Et oui, car les entreprises américaines ont bien du mal à recruter en ce moment. Malgré un plan de relance XXL, l'emploi ne repart pas aux États-Unis. Seulement 260 000 créations de postes en avril contre près d'un million attendus. Alors certains pointent du doigt les allocations chômage étendues pour faire face à la crise. Même si leurs droits sont épuisés, les chômeurs peuvent toucher une aide avec un bonus de $300 par semaine. L'État fédéral n'a jamais été aussi généreux. Résultat, les entreprises où les conditions de travail ne sont pas toujours bonnes ont du mal à recruter. Amazon a donc augmenté son salaire minimum à $17 de l'heure pour convaincre les candidats dans un pays où le salaire minimum horaire est de $7. Cette augmentation s'inscrit dans le cadre d'une guerre des salaires aux États-Unis. Deux grandes chaînes de fast-food, McDonald's et Chipotle, ont elles aussi augmenté leur salaire minimum. Et en parallèle, Joe Biden a serré la vis. Le président américain a annoncé que les allocations chômage seraient désormais supprimées pour les chômeurs qui refusent une offre d'emploi.
Voilà, Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. Alors à voir si au Royaume-Uni, Amazon sera confronté au même problème puisqu'il envisage de recruter 10 000 personnes là-bas.
Oui, le cyclisme, pour terminer, pas de Jeux Olympiques pour Julien Alaphilippe.
Eh bien non, le champion du monde français parle d'un choix personnel et préfère se concentrer sur le Tour de France dont l'arrivée à Paris est prévue 6 jours seulement avant l'épreuve olympique. De course en ligne, ça aurait fait un petit peu court quand même.
Merci. La suite de l'info, c'est à 19h30 en votre compagnie, Christophe Lama. Alors, je lis le programme. Sublime. Pluie ou averse pour demain, voilà. Vous avez l'embarras du choix, Anissa.
C'est vrai que c'est un menu qui n'est pas franchement varié hein, pour tout le week-end et pour
c'est
demain.
C'est même très indigeste, pardon.
Nous aurons donc sur la moitié sud, Wendy, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux Alpes, donc entre Bordeaux et Grenoble, en passant par l'Auvergne, des pluies régulières, durables, toute la journée, ça va être assez soutenu dans ces régions-là. Donc on a vraiment des pluies d'automne. Sur la moitié nord, là nous avons des averses. Elles sont un petit peu plus brèves et elles alternent avec quelques éclaircies dans la journée. Et puis toujours sur la moitié nord, le temps va évoluer dans l'après-midi. Puisque là, en plus des averses, nous aurons des coups de tonnerre. Il y aura des orages du côté de la Bretagne, de la région parisienne ou encore de la Lorraine. Donc voilà, c'est vraiment une journée à rester à la maison. Il n'y a finalement que sur le pourtour méditerranéen et la Corse que nous aurons droit un soleil, alors soleil souvent voilé, hein, c'est pas du grand beau et franc soleil. Quelques petites averses sur les Cévennes. Et puis toujours ce vent d'ouest qui souffle sur la Corse jusqu'à 90 km/h demain. Les températures, elles ne bougent pas. Nous avons exactement les mêmes températures qu'aujourd'hui. 4 à 13 degrés le matin et 12 à 22 degrés au meilleur de la journée. 12 degrés pour Aurillac, 14 à Limoges, 16 à Rouen et Lille, 17 pour Paris, 21 à Nice, 22 à Perpignan. Allez, petite touche d'espoir, demain c'est le dernier jour des Saintes-Glaces.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
On peut croiser les doigts.
On n'aura pas tout perdu, on pourra planter. Merci Anissa, à tout à l'heure.